Culture Média.
Philippe Vandel.
Est-ce déjà la fin de l'âge d'or pour les plateformes de vidéo à la demande ? Paramount Plus vient de se lancer en France sur un marché déjà bien encombré. Il y a Netflix, Disney Plus, il y a Prime Video, la plateforme d'Amazon, il y a Apple Plus, et je n'oublie pas les Français, Canal Plus Série, OCS et même Salto, qui devait être le Netflix à la française et qui n'en finit pas de survivre. Et s'il y avait saturation ? Les plateformes se font la course sur deux axes. D'abord les abonnements. Les études montrent que les Français n'ont pas l'intention de s'abonner à toutes au-delà d'un certain nombre, d'autant qu'il y a déjà fort à faire avec les abonnements pour qui aime le foot et le sport. Il y a Canal Plus, il y a Being et RMC Sport, et là aussi volontairement j'en oublie. Deuxièmement, la durée de visionnage. Le temps n'est pas extensible. Si vous passez votre soirée sur Netflix, c'est que vous ne la passez pas sur OCS, et réciproquement. Voilà pourquoi, pour la première fois de leur jeune existence, les plateformes de streaming font face à une crise de croissance. La solution est-elle d'augmenter les prix ? C'est ce qu'elles sont toutes en train de faire, peu ou prou. Oui, mais si les prix augmentent, comment séduire de nouveaux abonnés ? Pour s'y retrouver dans cette jungle, je reçois un excellent connaisseur du dossier. Bonjour Philippe Bailly.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le PDG, surtout le créateur de NPA Conseil. Pour qu'on comprenne d'où vous parlez, qu'est-ce que NPA Conseil, Philippe ?
Alors, NPA Conseil, c'est une boutique, une équipe d'une dizaine d'experts qui existe depuis un peu plus de 20 ans. NPA, ça veut dire Nouveau Paysage Audiovisuel au départ. C'était le nom qu'on a donné, et ça fait un peu old fashion aujourd'hui quand on le dit comme ça.
Ça fait un peu nulle part ailleurs.
Aussi, NPA. Mais on l'a créé après.
D'accord.
Et en tout cas, c'était au départ de regarder digital et médias. On sait bien dire on se disait que ça allait être le grand choc. La grande affaire au début des années 2000, c'était la TNT. Depuis, il y a eu moult développements. Voilà, mais ça reste toujours notre mission aujourd'hui. La vidéo, le digital et ce que ça produit du côté du consommateur comme du côté des entreprises.
Et vous conseillez notamment des chaînes de télévision, parfois des radios et aussi des producteurs indépendants.
Voilà, des producteurs, des distributeurs, on essaie de regarder et de s'adresser à l'ensemble de la filière.
Alors TV Mag en faisait sa une il y a deux semaines, vidéo à la demande, est-ce la fin de l'âge d'or ? Question posée par le magazine. Je vais donner les chiffres mondiaux. Netflix compte 223 millions d'abonnés dans le monde, Amazon Prime Video plus de 200 millions, Disney Plus était parti en retard, 164 millions, des chiffres mondiaux astronomiques, Apple TV plus 40 millions, Paramount qui s'est lancé en France la semaine dernière, le 1er décembre, 43 millions d'abonnés revendiqués dans le monde. Sans parler des plateformes spécifiquement françaises, Canal+ ou OCS, question simple, est-ce qu'il y a encore de la place pour tout le monde ?
Il y a deux limites, en tout cas qui justifient qu'on se pose la question. Il y a une limite économique. On nous parle d'inflation, matin, midi et soir, de croissance économique difficile en 2023, etc. C'est sûr que quand on est un Français aujourd'hui, et qu'on doit arbitrer entre ces dépenses, on n'est pas forcément tenté de remettre une pièce supplémentaire dans des services payants. A contrario, ils soignent tous leurs prix. Ils sont quand même tous restés à des niveaux accessibles. On en reparlera peut-être. Il y a l'autre sujet. Et alors celui-là, il est absolument insurmontable, c'est le temps. Une journée, ça fait 24 heures. Et quoi que... Enfin, on n'a jamais trouvé le moyen de d'étirer une journée... Sauf dans un jour sans fin, qu'on a condition de rejouer tous les jours le même... Et ça veut dire que non seulement il y a un temps de la vidéo, on a montré une étude la semaine dernière avec Médiamétrie qui montre que ça y est, on est à 4h30, puis ça a l'air d'être à peu près un plafond, ça ne progresse plus.
4h30 par jour, les gens n'ont plus de temps de libre au-delà de ces 4h30 passées par jour devant l'écran.
Oui, ça reste à peu près stable depuis 4 ans, avec juste une bosse Covid qu'on imagine. Donc, pas plus de temps, et puis d'autres services qui sont concurrents. Il y a la bonne vieille télé, malgré tout, qui reste, qui garde la plus grosse part. Et puis, il y a des nouveaux services gratuits, ceux qu'on appelle les services d'AVOD, ou les chaînes FAST, parce qu'on adore créer de nouveaux noms dès qu'on crée une nouvelle sorte de service. En tout cas, des services gratuits financés par la pub. Et puis, il y a les réseaux sociaux, et c'est une très forte tendance sur les 15-35 ans notamment, de passer beaucoup de temps à regarder des vidéos, et parfois des vidéos très courtes, sur TikTok, sur Instagram ou sur Twitch.
Vous avez fait ce calcul, Philippe Bailly. La durée de consommation des vidéos n'augmente plus, mais se redistribue. Les uns piquent du temps aux autres, dites-vous. L'offre de programmes en volume a explosé. Pour regarder les 500 nouvelles séries de l'année écoulée, l'an passé en France, il y en a eu 500. Philippe Bailly a fait le calcul, ça prendrait 6 mois en ne faisant que ça, 24 heures sur 24, sans dormir, ce qui est totalement dingue.
Et sans compter le temps pour les trouver.
Ça, c'est un autre sujet. On va en parler aussi. Je signale qu'il y a eu un mort récemment, Starzplay, qui a été rebaptisé Lionsgate Plus il y a quelques semaines et qui a annoncé son arrêt en France en 2023. Quel est l'état du marché en France spécifiquement? Est-ce qu'il n'y a pas trop de monde dans le même Marigot? C'est ce que quelqu'un qui était ici à votre place il y a quelques semaines me disait. Les businessmen américains ont trouvé un nom. Ils appellent ça The Red Ocean, l'océan rouge. Quand tous les requins débarquent sur la même pièce de viande et que l'eau devient trouble à cause du sang.
Et rien y voir.
Exactement.
Il y a un sujet, pouvoir d'achat, j'en ai dit un mot, j'y reviens pas. Il y a un sujet, capacité de l'abonné, quand il ouvre la boîte, enfin, c'est bientôt Noël, quand il regarde le paquet qui est avec son paquet cadeau, de savoir ce qu'il va trouver à l'intérieur. C'est vrai au moment où il s'abonne, c'est vrai tous les jours au moment où il doit décider de ce qu'il va regarder. Et il y a mais malgré tout, il y a des usages, un nombre d'abonnés qui continue à augmenter. On a battu un record, plus de 53%, c'est le plus haut que la SVOD ait connu en France. Il y a une durée d'utilisation, un nombre d'utilisateurs qui continue à augmenter lui aussi. On est à peu près à 10 millions de personnes en moyenne qui, chaque jour, regardent de la SVOD. Donc, on n'est pas peut-être encore au sommet.
Vous donnez un chiffre, le nombre de services consommés par un utilisateur reste stable, 1,9. Alors je précise, personne n'est abonné à 1,9. Voilà, c'est comme quand on dit que les Françaises ont en moyenne 2,1 enfants par maman.
C'est ça, voilà. C'est une moyenne.
1,9, pourquoi ça ne progresse pas? Je croyais qu'il y avait une limite qui m'avait été racontée un jour, il y avait une limite théorique non écrite de 3. Personne ne s'abonne à plus de 3 plateformes.
Il y en a quelques-uns, mais alors là, ça devient marginal. On en trouve même dans notre étude qui sont abonnés à 5 services, mais effectivement, je ne sais pas le temps qu'ils passent par ailleurs à dormir. Ils sont peut-être plus beaucoup de temps pour ça. Non, deux services, on est en dessous, sensiblement en dessous de ce que des Américains, par exemple, qui eux sont couramment à 3, 4, voire 5. C'est relativement stable parce que, encore une fois, limite de temps, limite de budget. La question, c'est, dans la redistribution dont vous parliez, la place que Paramount Plus va gagner peut-être demain.
Ça allait être ma question. Paramount Plus s'est lancé sur ce marché très encombré le 1er décembre. Quelle place peuvent-ils gagner? Que montrent vos études? Cette chaîne intéresse qui?
Alors, elle est plutôt masculine, un peu masculine, enfin plutôt en termes de public visé, de public qui s'y intéresse, plutôt un peu plus les hommes. Les 25-49, ça c'est assez classique, je dirais c'est vraiment le cœur de cible de la SVOD. Et surtout, une chose que je trouve intéressante et bien jouée dans leur campagne, ils ont montré que, certes, Paramount, c'est une marque de cinéma mythique, c'est les films de Tom Cruise, c'est Maverick, pour ne citer que celui-là, par exemple, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de marques qu'on ne lui attribue pas forcément, mais c'est MTV pour les ados et les jeunes adultes, c'est Nickelodeon pour les gamins, c'est Showtime pour ceux qui aiment les séries, etc. Enfin, ils ont montré qu'ils avaient une variété de promesses dans les spots qu'on voit actuellement, qui font que c'est plus facile de s'y retrouver, et avec un positionnement prix, 7,99€, qui est un peu moins cher que celui de Disney aujourd'hui, qui est au même niveau que... Enfin, ils sont dans le cœur du marché. Voilà. Ils n'ont pas attaqué en ayant le prix le plus bas. Ils n'ont pas cherché à jouer l'hyper premium. Ils sont dans le cœur du marché.
J'avais noté Paramount 7,99. Ils sont entre Netflix et qui est à 8,99 comme Disney+. Et en dessous, il y a Prime Video, Apple+, Salto et Canal Série qui est à 6,99. Donc, ils sont dans la moyenne. Vous parliez des 25-34 ans et des 25-45 ans. Un mot des jeunes dont vos études montrent le désintérêt pour le média télé.
Alors, c'est-à-dire qu'ils se sont d'abord désintéressés, pas totalement, mais moins intéressés à la télé classique. Ils sont allés en masse sur la SVOD. Ça a été les premiers à se ruer sur la SVOD, sur le binge-watching, comme on dit. Il y a eu un moment où ils représentaient, les 15-24 ans, 40% de la consommation de SVOD, alors qu'ils pèsent moins de 15% de la population. C'était vraiment la ruée. Et puis, comme souvent, les jeunes sont zappeurs et ils ont un peu reporté une partie de leur temps aujourd'hui, moins sur la SVOD, davantage sur les plateformes, les TikTok, et encore une fois, les plateformes de vidéos courtes.
Pour quelle raison? Que montrent vos études? Est-ce que c'est parce qu'ils sont lassés de ce format où il faut rester concentré pendant 52 minutes? Je ne vais pas refaire ici le procès de la concentration des jeunes et de la théorie du poisson rouge. Ou est-ce que parce que les chaînes, quand elles ont démarré, ont mis toutes leurs pépites au début et que maintenant c'est très très difficile? Il y a très peu de gens qui vous disent, comme il y a quelques années, waouh, j'ai vu un truc dingue sur Netflix et encore un autre la semaine dernière et encore un autre il y a 3 jours.
C'est toujours difficile d'être définitif, mais en tout cas, une raison, c'est sur le nouveauté. Les gamins, effectivement, enfin les jeunes, voire très jeunes, qui ont tendance à tout consommer tout de suite et à avoir toujours une demande de nouveauté extrêmement forte. De leur côté, les plateformes continuent à produire, mais lèvent un peu le pied parce que du côté des financiers, on leur pointe la rentabilité. En bourse, ça ne se passe pas bien du tout. Et du coup, toutes les plateformes sont un peu en train de ralentir et de revenir un petit peu sur le binge, sur le fait de tout mettre le même jour.
Je vous interromps parce qu'on va en parler en deuxième partie de cet entretien du financement. Juste un mot sur les jeunes. Vous dites qu'ailleurs, c'est pire. Il y a un papier que vous signez, TV-SVOD, La grande désertion des 15-24 ans. Et vous dites qu'ailleurs, c'est pire. Les jeunes britanniques regardent la télévision moins d'une heure par jour. Et vous signalez que la désertion des jeunes touche également la télévision linéaire classique en Allemagne et en Espagne. Donc c'est une tendance lourde.
Absolument. On a fait un panoramique sur les principaux pays européens et on a partout la même concurrence. Au Royaume-Uni, effectivement, le premier média à consommer, ça reste la télé. Mais la SVOD est passée troisième parce que le deuxième, ce sont les plateformes de partage de vidéos, YouTube, TikTok et autres.
Est-ce que les prix vont monter? Est-ce que les prix vont baisser? Est-ce que Netflix va être mesuré par Médiamétrie? Et si oui, qu'est-ce que ça apporte? Vous allez voir que c'est très amusant. Philippe Bailly, le fondateur d'NPA Conseil, est avec nous. Culture Média continue.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de la guerre entre plateformes. Est-on arrivé à un marché saturé? Élément de réponse avec Philippe Bailly, le fondateur de NPA Conseil. Nous parlions d'audience. On connaît le nombre d'abonnés des plateformes, on ne connaît pas leur audience. Et il y a une nouveauté. Netflix pourrait peut-être bientôt être mesuré par Médiamétrie. D'abord, dans quel but?
Le but, il est pour le coup principalement tourné vers les publicitaires, vers les annonceurs. Depuis le début novembre, Netflix a aussi un forfait avec publicité et les annonceurs de leur côté veulent évidemment être un peu plus sûrs du nombre de l'audience que ça représente.
Ils veulent connaître ce qu'on appelle le coût au mille. Combien ça coûte pour toucher 1000 personnes?
Exactement, mais Netflix est déjà mesuré par les médiamétries locaux au Royaume-Uni et aux États-Unis, Nielsen et le Barb, et ça a montré par exemple en Angleterre que Netflix est aujourd'hui la troisième chaîne. Il y a d'abord la BBC, il y a ensuite ITV, et devant Channel 4, donc une chaîne historique, c'est Netflix.
Alors, j'ai appris grâce à vous, en vous lisant, que si Netflix est mesuré par Médiamétrie, va arriver sur le tapis une question ubuesque.
Oui, la question ubuesque, c'est celle de la comptabilisation ou pas du temps que vous passez, vous Philippe, moi aussi, à chercher un programme. On est bien dans l'univers de Netflix, on n'est pas en train de regarder une émission, on est en train de la chercher. Est-ce que ça, c'est du temps Netflix ou pas? Bah, figurez-vous qu'aujourd'hui, donc ceux qui débattent et qui mettent au point la mesure, ça nourrit les discussions. Et pourquoi ça nourrit les discussions? Parce que à la fin, ça représente un temps pas négligeable du tout. Il y a certaines études aux États-Unis, alors je me méfie toujours un peu, la fameuse étude des États-Unis, mais enfin, en tout cas qui parle de plus de 20 minutes passer par jour à chercher son programme, à tel point qu'à la fin on en a marre et puis on retourne sur une chaîne traditionnelle et là tout redevient simple. Donc enfin, en tout cas, la capacité à trouver facilement son programme, c'est vraiment un enjeu de cet univers des programmes à la demande.
C'est un enjeu crucial puisque c'est ce qu'on appelle, ce que les gens, la théorie du jeu appelle un jeu à somme nulle. C'est-à-dire si on joue aux échecs tous les deux, si je gagne, c'est que vous avez perdu. Si vous avez gagné, c'est que j'ai perdu. Donc si les gens sont 20 minutes devant Netflix, ils ne sont pas devant la 1, la 2 ou la 3. Donc j'imagine que les chaînes traditionnelles n'ont pas envie que ce temps-là soit comptabilisé. Mais Netflix doit avoir envie que ce temps-là soit comptabilisé.
Bah, je pense que les marques d'ailleurs ont accessoirement pas forcément envie non plus que ça soit comptabilisé, dans le sens où, puisque vous n'êtes pas dans un programme, par définition, vous ne verrez pas le spot de pub qui est au milieu du programme. Donc, mais ça devrait être un détail. Je veux dire, les choses sont faites aujourd'hui et la difficulté à trouver son programme est telle que c'est un peu plus qu'un épiphénomène.
Je voudrais qu'on parle de la question soulevée par Louise Bernard. L'audience des plateformes, on parlait d'Amazon. Pourquoi les plateformes ne donnent pas leur audience? Quel est leur intérêt à cacher ce chiffre? Puisque c'est une tradition, mais enfin c'est l'usage.
Alors pour le coup, c'est une plaie de l'ensemble de l'univers de la vidéo numérique, pas seulement les plateformes de SVOD, mais YouTube, mais Twitch, enfin tous les autres. Chacun a sa propre manière de compter ses audiences, en durée que vous y avez passé, est-ce que ça a été exposé en plein écran ou pas, ou etc. Et chacun publie des chiffres. Enfin, tout le monde a des chiffres, en tout cas, à défaut de les donner au grand public, ils les donnent aux annonceurs, mais ça n'est pas réalisé sur des bases comparables. Médiamétrie est en train vraiment de faire un gros boulot là-dessus pour essayer de rassembler tout le monde et de sortir à partir de 2024 une mesure unifiée. Ça veut dire l'ensemble des écrans, l'ensemble des types de services est mesuré de la même manière. Et vraiment, je tire mon chapeau à Nick Cariou, le patron de Médiamétrie, qui mène ça avec beaucoup d'énergie et en même temps de diplomatie, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'enjeux financiers derrière. Mais maintenant, on a une date, 2024, donc c'est demain. Et juste une nuance sur ce que disait Louise Bernard, la SVOD, elle est mesurée depuis 2018 en France. C'est nous qui l'avons créée, pardon. Et l'étude a été reprise en 2020 par Médiamétrie. Pourquoi est-ce que ce n'est pas publié tous les jours comme le Médiamat?
Si on avait les chiffres, on les donnerait. Alors, j'ai très bien compris, mais c'est comme les chiffres d'adhérents dans les partis politiques. Il y a quelqu'un qui a le nombre, mais ce n'est pas transmis à la presse. Nous, on n'est pas au courant.
Ça n'est pas transmis. Alors là, aujourd'hui, je dirais que cette décision de publicité, elle appartient à Médiamétrie, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas été mis tout à fait dans le même paquet que l'audience télé, le Médiamat? C'est précisément parce que ce n'est pas tout à fait la même méthodologie. C'est déclaratif versus les boîtiers poussoirs. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, là encore, sur ce sujet, l'étude de 2024 doit permettre de résoudre et d'unifier les mesures.
2024, c'est dans 2 ans, c'est au moment des Jeux Olympiques. On va parler de la guerre des plateformes.
Ouais, c'est une course de haie.
Exactement. Vous avez un peu soulevé le sujet. Comment lutter? Comment une plateforme peut passer devant une autre? Les productions deviennent de plus en plus chères. Le budget d'une saison de Game of Thrones tournait autour de 100 millions de dollars. Ça paraissait complètement dingue si on rapporte ça à du cinéma. Jusqu'à ce que Prime Video, Amazon donc lance Le Seigneur des Anneaux avec un budget quasi illimité, 465 millions de dollars. Ça finit du coup par poser des problèmes de rentabilité.
Ça pose de gros problèmes de rentabilité. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Amazon revendiquerait ce chiffre avec autant un peu d'arrogance ou de fierté qu'ils l'ont fait à l'époque.
Ils l'ont revendiqué pour dire « venez chez nous ». C'était pour conquérir des abonnés. C'est comme autrefois, vous receviez un Radio Réveil quand vous abonniez à un magazine,
oui,
un hebdomadaire.
La difficulté, c'est que quand vous parlez au grand public, mais vous parlez aussi aux financiers, à ceux qui sont à la bourse. Et aujourd'hui, depuis le début de l'année, il y a eu un peu un retournement et un changement de climat à la bourse. Là où on était en mode chevauchée sauvage, plateforme, dépensez autant que vous voulez, l'essentiel c'est que vous gagnez des abonnés et puis un jour ou l'autre, puis vous arriverez bien à la rentabilité. Là, les analystes financiers, mais surtout ceux qui passent des ordres, ceux qui achètent des actions, ont changé leurs lunettes et maintenant ils disent la rentabilité, elle n'est pas encore là, il faut que vous vous dépêchiez. Et du coup, tout le monde est en train de serrer les coups. Il y a des vagues de licenciements dans les studios aux États-Unis. Il va y avoir moins d'argent sur les programmes et donc sans doute moins de nouveautés.
Est-ce que les prix pour nous vont monter ou vont baisser? Est-ce qu'ils vont monter pour que ça devienne rentable ou est-ce qu'ils vont baisser pour conquérir des abonnés?
Alors la première des réponses, c'est ni l'un ni l'autre, c'est d'essayer d'ajouter aux abonnements de la publicité, des recettes de la publicité. Netflix l'a fait, donc avec leur nouveau forfait à 5,99. Ça commence après-demain aux États-Unis pour Disney+, ça arrivera en Europe en 2023 sans doute. Donc le premier truc, c'est pour gagner davantage d'argent, je laisse les abonnements au même niveau, mais je vais chercher de la publicité. Pour le reste, tant que le marché compte autant de joueurs, on revient à votre Etsy, c'est compliqué de monter les prix à la hausse. Parce que le risque, si vous poussez vos prix à la hausse, c'est que les gens partent chez vous, vous quittez, aillez chez le voisin. Donc pour l'instant, je pense que ça va rester stable.
Merci beaucoup Philippe Bailly, on aurait pu faire 3 émissions là-dessus, fondateur de NPA Conseil, à très bientôt. Merci beaucoup, nous on se retrouve dans un instant avec le comédien Noah Wyle, l'acteur américain, ancienne star de la série Urgence. Il est de passage à Paris, il s'arrête au micro de Culture Média, il nous parle de sa nouvelle série. Et puis on va retrouver évidemment Bruno Donnet pour ses télescopages. A tout de suite sur Europe 1.